pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par L'Incipit, la première phrase d'un roman, de plusieurs romans, puisque j'y avais jamais pensé jusqu'à maintenant, mais c'est quand même la première phrase la plus célèbre de tous les temps. Vous êtes prêts ? C'est court. Il était une fois. Et voilà, c'est vrai que c'est efficace quand même pour commencer une histoire. Des histoires, Jean-Jacques Debout en a à revendre. Nous sommes allés chez lui et donc chez Chantal Goya, sa compagne. Je dois dire que c'est un rêve d'enfant que j'ai réalisé pour visiter donc sa bibliothèque. Les libraires sont là pour les bonnes idées de lecture et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolan. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Il est membre de l'Académie Goncourt, mais il est d'abord écrivain. Il revient avec un nouveau roman, Tu seras un homme, mon fils, chez Gallimard. Tout est dans le titre, puisque c'est à la fois une histoire de père et de fils, mais aussi l'histoire d'un poète, Rudyard Kipling, l'auteur de ce vers final, Tu seras un homme, mon fils, extrait du poème If, si, qui commence comme ça dans la version française. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, etc. Il y a plusieurs strophes et à la fin donc, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour Nicolas Carreau.
Je vous vois dodeliner de la tête parce que vous n'aimez pas cette version.
Ah non.
Vous préférez peut-être celle-ci.
If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you.
C'est la version originale lue par Michael Caine. Et la version que j'ai lue en français, c'est André Mauroy, en fait, qui a traduit.
C'est celle que tous les Français connaissent depuis un siècle, parce qu'elle a dominé toute autre traduction. Or, le problème, c'est que non seulement elle contient des erreurs de traduction, elle contient des contresens, mais elle contient surtout un quatrain qui est entièrement de Mauroy et non de Kipling, et qui dit le contraire de son poème, car If est un poème de sagesse, et il en fait un poème de force, et surtout, d'un poème anglais, il a fait un poème français. Enfin, c'est inouï, parce que quand on y pense, un poème, c'est de la musique. Ce qui tient un poème, son secret, c'est le rythme. Or, le rythme épouse la manière dont l'auteur original, Rudyard Kipling, a fait suivre les vers et les quatrains. Or là, tout est bouleversé. Donc en plus, il y a ça, en plus du reste.
Alors justement, j'allais vous poser cette question. Quel est le secret d'un poème réussi ? Il y en a très très peu quand même, des poèmes aussi célèbres que celui-là. Il doit y en avoir une dizaine que tout le monde connaît. Voilà.
C'est le plus célèbre. Il faut imaginer.
Pourquoi ?
Que, d'abord, pour moi, un chef-d'œuvre en littérature, au cinéma, au théâtre, en art, un chef-d'œuvre, c'est cette chose qui vous explique ce qui vous arrive mieux que vous ne sauriez le faire. Ce poème est universel et intemporel. La meilleure preuve, c'est qu'on en parle encore, nous, aujourd'hui, ici, dans le studio d'Europe 1, un siècle après. Donc, c'est bien quelque chose. Et il fonctionne toujours autant. Là, je vois depuis un mois que ce livre est sorti, j'ai beaucoup de rencontres dans les librairies. C'est autant des femmes que des hommes qui m'en parlent. Et les deux me disent, mon père a encadré ce poème quand j'avais 7-8 ans, et il l'a accroché au-dessus de ma tête dans mon lit, dans ma chambre d'enfant. Et depuis, ça a engagé ma vie. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui me disent ça. C'est très touchant. Et encore une fois, y compris des femmes. Car tu seras un homme, mon fils, c'est un homme, un père qui parle à son fils. Mais en fait, c'est un parent qui parle à son enfant.
C'est quelque chose d'universel. C'est assez moderne, finalement.
Oui,
c'est
indémodable. Dans un siècle, s'il y a encore des livres et des gens pour les lire, eh bien, ce poème, à mon avis, touchera les gens de la même manière.
On va entrer dans le cœur du roman bientôt, mais il faut quand même qu'on fasse le tour. Il y a ce titre aussi qui est incroyable, If.
Alors, If. Si. Mais c'est ça, si, c'est ça. Parce que le si scande ce poème. Si tu fais, si tu peux, si tu veux, si, et puis la chute, alors tu seras un homme, mon fils.
Alors, Kipling, on rappelle, c'est aussi l'auteur du Livre de la Jungle. C'est d'ailleurs presque l'unique raison avec ce poème pour laquelle il est connu en France. Il est né en 1865, mort en 1936. Il n'a peut-être pas d'ailleurs la postérité qu'il mérite en France, puisque en Angleterre, c'est un dieu. Et d'ailleurs, c'était un monstre sacré de son vivant, prix Nobel de littérature à 42 ans.
En 1907. Mais il a été adoubé très tôt par les écrivains, notamment Henry James. Il a eu un grand succès dès qu'il a commencé. Donc dès 25 ans, c'est un homme qui est un écrivain fêté, loué, très riche, pas par héritage ni autre, très riche par ses droits d'auteur, car Livre de la jungle.
Livre de la jungle.
Alors, c'est bien d'insister sur Livre de la jungle, vous avez raison, parce que la jeune génération d'aujourd'hui est persuadée que c'est Walt Disney qui a écrit le Livre de la jungle. On ne peut pas leur en vouloir,
c'est un
on
super
peut pas
les emblâmer. D'ailleurs.
Mais il y a Kim, il y a Capitaine Courageux, et il y a surtout deux aspects de Kipling qui sont beaucoup moins connus en France qu'en Angleterre. C'est d'une part le poète, qui est immense, qui a un lexique très travaillé, très riche. Et puis le nouvelliste, qui a une imagination débordante. La nouvelle la plus connue, grâce à l'adaptation au cinéma, L'homme qui voulait être roi, qui est un très beau film de John Huston, avec Sean Connery et justement Michael Caine. Ben, L'homme qui voulait être roi, c'est une nouvelle, ce n'est pas un roman. Donc c'est moins le romancier, moi, qui m'intéresse que le nouvelliste.
Qu'est-ce qui vous a mené à lui, justement ?
Alors, moi, ce qui m'a mené à Kipling, c'est un petit livre que j'ai trouvé un jour en Angleterre, consacré aux relations entre lui et son fils. Et j'ai creusé ça, et tout d'un coup, la statue de Kipling, qui est très imposante, pour moi, c'est lézardé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce type, qui a connu bien des malheurs, était anglais jusqu'au bout. Hein. Never explain, never complain. On n'explique pas et on ne se plaint pas. Et à un moment, il fend l'armure. Une première fois, il perd sa fille, qui a 8 ans, et qu'il a adorée. Parce qu'elle l'a emmenée avec ses enfants traverser l'Atlantique au mois de décembre sur un paquebot, ce qui est une folie, vu le temps qu'il fait, pour aller à New York où il faisait aussi moins 10 degrés. Tout le monde a eu une pneumonie, elle est morte. Elle n'a pas pu résister, elle a été incinérée à New York. C'est le drame de la vie de Kipling. Mais ce n'est que le premier. Car le deuxième drame, qui est le cœur de mon roman,
de votre roman,
c'est la mort de son fils qui avait 17 ans et demi. Et qui était réformé en 1914 parce qu'il était aussi myope que son père et que son père a tout fait pour l'envoyer malgré tout à la guerre dans les tranchées en France comme lieutenant à la tête d'une unité combattante parce que il disait quand on est le fils du grand Kipling, quand on est le fils de celui qui a écrit Tu seras dans mon fils, on reste pas chez soi à la campagne alors que toute sa génération se bat. Et donc, le fils était écrasé par ce père qui prenait les décisions à la place du fils. Et en même temps, il adorait son fils. Hein. Ce n'est pas du tout l'histoire d'un conflit père-fils où il y a une mésentente, une incapacité à communiquer. Non, il aimait beaucoup ses enfants, mais on peut aimer à la folie et aimer mal.
Et le fils va mourir au premier assaut.
Oui, dans les tranchées.
Dans les tranchées.
Dès qu'il sort de la tranchée, ou plutôt,
et on
il
en
est porté disparu.
Dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre avec notre invité exceptionnel aujourd'hui, puisque c'est Pierre Assouline, membre de l'Académie Goncourt, qu'on avait reçu d'ailleurs au mois d'octobre dernier pour faire un petit point sur l'histoire du Goncourt. Mais là, vous revenez avec un nouveau roman déguisé en biographie ou l'inverse, on va en reparler aussi, qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils » chez Gallimard, évidemment, qui met en scène notamment le poète Kipling et le narrateur Louis Lambert, qui est un prof de français du lycée Janson de Sailly à Paris et qui rencontre Kipling et qui a un but dans la vie, traduire correctement le poème « If », qui se termine donc par « Tu seras un homme, mon fils », traduire ce poème de l'anglais au français, ce qui est extrêmement complexe, on va en reparler, mais parallèlement, on suit aussi dans ce roman la vie de Kipling et la mort de son fils, précisément, qui l'a envoyé à la Première Guerre mondiale, qui l'a envoyé au front, d'une certaine manière, puisque son fils devait être réformé et Kipling a fait des pieds et des mains pour qu'il puisse accomplir son devoir. Résultat, au premier assaut, son fils est mort et Kipling a traîné, Pierre Assouline, cette culpabilité toute sa vie. Sauf que, comme vous nous l'expliquiez avant la pub, c'était pas du tout un homme méchant ou quelqu'un de malveillant, Kipling, au contraire. Mais comment il n'a pas pu penser à ça, que son fils pouvait mourir s'il l'envoyait à la guerre ?
Il faut se transporter en 1915. Toute l'Angleterre est à la guerre alors qu'elle n'est pas attaquée directement. Ça ne se passe pas sur son sol. Il faut quand même se rappeler ça. Or, il y a des dizaines de milliers de soldats britanniques qui meurent tous les jours là-bas, en France, dans les tranchées. Et donc, c'est impensable pour Kipling, qui est, je le rappelle quand même, à l'époque, ultra-conservateur, patriote, nationaliste, colonialiste, impérialiste, antisémite, anti-parlementaire, anti-démocrate, anti-irlandais et surtout anti-allemand. Il a une haine absolue des Allemands. Il les appelle soit les Boches, soit plutôt les Huns. Pour lui, c'est l'horreur absolue. Il dit même que c'est une race qu'il faut éradiquer d'Europe. C'est incroyable, cette violence. Qui a, si je puis dire, un bon côté, c'est qu'à la fin des années 20, début des années 30, Kipling, c'est un des rares qui soit un lanceur d'alerte, comme on dit, comme on ne disait pas à l'époque, pour sonner le tocsin. Partout où on lui tend le micro, partout où il peut parler ou écrire, il dit « Attention, il y a un seul danger aujourd'hui, c'est Hitler et sa bande qui vont prendre le pouvoir. J'ai lu Mein Kampf, lisez-le et vous verrez, ces gens-là ne rêvent que d'une chose, nous réduire tous en esclavage. Donc, oubliez ma haine des Allemands et regardez un peu ce qui se passe. » Et à ce moment-là, toute l'Angleterre est dans la politique de l'apaisement. C'est surtout ne pas heurter les Allemands, ne pas oublier le traité de Versailles, les a humiliés, ça suffit. Et pendant ce temps-là, l'Allemagne réarme, alors que l'Angleterre, au contraire, ne cesse de jouer l'apaisement en disant « une guerre, ça suffit, il n'y aura pas une deuxième ».
Mais revenons à sa relation avec son fils, puisque donc il l'a envoyé à la guerre. Son fils est mort et il y a une scène bouleversante qui avait donné lieu d'ailleurs à un film, il me semble, où Kipling se rend sur le champ de bataille pour essayer de retrouver son fils.
Oui, parce que le télégramme qu'il a reçu du ministère de la guerre, c'est non pas « votre fils est mort », mais « your son is missing in action ».
Ah oui.
Il est porté disparu. Alors, donc à ce moment-là, Kipling dit « j'interdis que les journaux disent qu'il est mort ». Il n'est que porté disparu, il est peut-être prisonnier chez les Allemands, il est peut-être hospitalisé chez l'ennemi, et donc... avec son chauffeur et sa Rolls, il va en France tout le temps parce qu'il adore la France et les Français, et il s'arrête toujours dans les cimetières britanniques qui sont très très nombreux dans le nord de la France, et cimetières militaires, et il sait exactement où son fils est tombé parce qu'il a fait une enquête avec les survivants de son régiment, et il va se mettre à chercher, à fouiller, il cherche des éléments pour essayer de retrouver des traces. Mais ce qu'il ne comprend toujours pas, bien que tout le monde lui ait dit, c'est que cette guerre est tellement atypique que ça a été un carnage inouï, c'est-à-dire ça a été un orage d'acier, de boue, de sang, de pluie permanent. On ne peut rien retrouver. Ouais. La terre sur les champs de bataille a été retournée des dizaines de fois par le déluge d'obus. Le livre d'Ernst Jünger, qui était lui de l'autre côté, hein, côté allemand, s'intitule à juste titre « Orage d'acier ».
Parenthèse, on le voit très bien aussi dans le film de Sam Mendes. Je ne sais pas si vous l'avez
alors,
vu.
Je ne l'ai pas encore vu, mais je compte le voir.
Qui se passe dans les tranchées. Et c'est vrai que ce que vous dites là, on le voit, on le constate avec ce film-là. Alors, il y a deux histoires parallèles, plus ou moins, dans ce roman. Il y a celle donc, de Kipling, de son fils, etc. Mais il y a aussi, surtout, celle du narrateur Louis Lambert qui veut absolument traduire « If » en français et qui a donc besoin de l'aide de Kipling pour ça. Il a besoin d'aide parce que traduire particulièrement un poème, c'est complexe, c'est très très complexe.
Et le problème, c'est aussi qu'il est perfectionniste, hein, ce prof. Voilà.
Pourquoi c'est complexe de traduire un poème et ce poème-là ?
D'abord, premièrement, contrairement à ce qu'on croit, à cause du livre de la jungle et de Kim, Kipling est un écrivain très exigeant qui a une langue, un vocabulaire, une syntaxe, un lexique très sophistiqué. Et quand on voit sa poésie, c'est nouvelle aussi, mais sa poésie, c'est d'une grande richesse. Donc ça ne se traduit pas comme ça. Ensuite, un poème, bah, c'est difficile parce que très souvent, on dit que pour traduire un poème, il faut un poète. Mais le problème, c'est que quand c'est un poète qui traduit, il se l'approprie.
Ouais, comme André Mauroy, d'ailleurs.
Oui, qui n'est pas poète,
qui est romancier. Enfin, qui est romancier.
Oui, mais quand on a vu ça...
Quelle est la différence ?
Pour mille et... Ah, quand même. Non, mais dans mille et une occasions, on a vu des poètes s'approprier, par exemple, Baudelaire, Edgar Poe,
oui.
Et d'autres encore. Hein.
Boris Vian qui traduit Chandler, c'était pas la meilleure solution, malgré toute l'admiration que j'ai pour Boris Vian.
C'est arrivé très souvent.
La traduction, c'est très complexe.
C'est complexe, et je dirais, le plus complexe, c'est la poésie.
Alors, résultat, vous nous créez un suspense étonnant que je ne pense pas que ce soit déjà vu ou lu dans un roman. C'est est-ce qu'il va réussir à traduire ce poème correctement ?
Alors, il est beau être perfectionniste, il faut savoir terminer un poème et une traduction.
Oui, mais résultat, c'était évidemment, c'est vous l'écrivain. Et donc, c'est vous qui traduisez le poème.
Alors, ça a été plus compliqué parce que, en fait, j'ai toujours les poèmes qui sont dans le livre, je cite le nom du traducteur. Et là, ça arrive à la fin. Évidemment, je donne if. Et le problème, c'est que mon éditeur, mon entourage me dit, mais il faut que tu te l'appropries. C'est à toi de le traduire. Alors, je leur dis, mais je ne suis pas traducteur. Je lis l'anglais tous les jours. Ils m'ont dit, ah non, il faut que tu le lises, toi.
Est-ce que vous nous liriez quelques strophes ?
Il faut que tu le traduises, toi. Vous voulez que je vous le lise ?
Ah bah oui.
En entier. Alors, je vais le lire. Vous l'aurez voulu. Hein. Si tu peux garder ton calme quand tous autour de toi le perdent et te le reprochent, si tu peux avoir confiance en toi quand tous doutent de toi, tout en tenant compte de leur scepticisme, si tu peux attendre sans te décourager d'attendre, ou quand on te calomnie, ne pas calomnier à ton tour, ou quand on te hait, ne pas haïr en retour, et cependant, n'aie pas l'air trop bon, ni ne parle trop en sage. Si tu peux rêver sans être l'esclave de tes rêves, si tu peux penser sans faire de tes pensées une fin, si tu peux affronter victoire et défaite et traiter pareillement ces deux charlatans, si tu peux tolérer d'entendre ta vérité tordue par des arnaqueurs pour piéger des crétins, ou voir s'effondrer l'œuvre de ta vie et te courber et la rebâtir de tes outils usés. Si tu peux rassembler en un tas tous tes gains et risquer ton va-tout à pile ou face et perdre et repartir de zéro comme à tes débuts sans jamais souffler mot de ta perte. Si tu peux imposer à ton cœur et tes nerfs et tes tendons de te servir longtemps, fût-il à bout de force, et ainsi de tenir bon quand toute énergie t'a déserté, excepté la volonté qui leur dit « Tenez bon ». Si tu peux t'adresser aux foules et garder ton intégrité, ou accompagner les rois en sachant rester simple, si les offenses de tes amis comme celles de tes ennemis ne peuvent t'atteindre, si chacun compte pour toi, mais aucun ne compte trop, si tu peux remplir la minute inexorable de 60 secondes de chemin parcouru, à toi la terre appartient et tout ce qu'elle contient. Et mieux encore, tu seras un homme, mon fils.
Et on se quitte sur cette nouvelle version de If, traduisez si en français, une nouvelle version pour la première fois lue à la radio, je ne me trompe pas.
Non, c'est
et
vrai.
Qui sera peut-être la version qui remplacera celle d'André Mauroy et qu'on étudiera à l'école. En tout cas, je vous le souhaite, Pierre Assouline.
Merci.
Et on peut retrouver le poème dans son intégralité dans ce livre, Tu seras un homme. Mon fils chez Gallimard. Merci beaucoup, Pierre Assouline.
Merci, Nicolas.
Europe 1.
Dans un instant, encore des livres, nous allons parler d'un roman culte, Les Aventures de Tom Sawyer. A tout de suite.
La Voix est livre.
Nicolas Caro.
Chaque semaine, nous évoquons un roman culte. Aujourd'hui, j'ai choisi Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, le père de la littérature américaine. Il a été publié en 1876 pour la première fois aux États-Unis. C'est l'histoire de Tom, donc un orphelin élevé par sa tante Polly dans une petite ville du Missouri sur les bords du fleuve Mississippi. On ne sait pas vraiment quel âge il a, mais disons 12-13 ans. Et très attachant, très casse-cou aussi. Il y a Becky, dont il est amoureux, et il adore surtout les bêtises et l'aventure. Donc, il la cherche partout, cette aventure, avec son copain Huckleberry Finn. Et forcément, il leur arrive des bricoles. Tom va être témoin d'un meurtre, il va tomber sur un trésor. Et son pire cauchemar, c'est un certain Joe l'Indien, un bandit plutôt très méchant. C'est un livre qui se lit à toute vitesse, ça ne s'arrête jamais. Il faut les suivre, Tom et Huck, deux gamins, mais de vrais gamins, authentiques, insolents et libres. Le roman a été retraduit il y a 2 ans aux éditions Tristram par Bernard Hoffner. Les versions précédentes étaient très écrites. Cette nouvelle traduction rend son ton très oral au roman. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les toutes premières pages lues par Philippe Dussault.
Tom !
Pas de réponse.
Tom !
Pas de réponse. Où est passé ce garçon ? J'aimerais bien en savoir.
Hé, Tom !
Pas de réponse. La vieille dame baissa ses lunettes, regarda par-dessus et inspecta la pièce. Puis, elle les releva et regarda par-dessous. Elle ne cherchait jamais à regarder, ou alors, très rarement, à travers ses lunettes. Une chose aussi insignifiante qu'un garçon. C'était sa paire du dimanche, la fierté de son cœur, et elle existait pour le style, hein, pas pour l'usage. Elle aurait tout aussi bien pu regarder à travers deux plaques de fourneau. Elle eut un instant l'air perplexe, puis annonça, sans colère, mais assez fort pour que le mobilier l'entende. « Eh bien, je suis sûr que si je te mets la main dessus, je... » Elle ne termina pas, car elle s'était déjà penchée et envoyait des coups de balai sous le lit. Elle avait donc besoin de reprendre son souffle pour ponctuer ses coups. Elle ne parvint à ressusciter que le chat. « Jamais je n'ai connu un garnement pareil !» Elle se dirigea vers la porte ouverte, se tint dans l'encadrement et examina les plants de tomates et les trompettes du diable qui constituaient le jardin. Pas de Tom. Et elle éleva donc la voix, lui donnant une inclinaison calculée afin qu'elle porte loin, et cria « Hey ! Oh ! Tom !» Il y eut un léger bruit derrière elle et elle se retourna juste à temps pour saisir un petit garçon par les basques de son paletot et l'arrêter dans sa fuite. « Tiens ! Ah, mais j'aurais dû y penser à ce placard. Tu faisais quoi là-dedans ? Rien. Rien ? Regarde tes mains. Et regarde ta bouche. C'est quoi ce barbouillage ? Mais j'en sais rien, tante. Eh bien, moi, je sais. C'est de la confiture. Voilà ce que c'est. 40 fois que je t'ai déjà dit que si tu ne laissais pas cette confiture tranquille, je t'écorcherais tout vif. Alors passe-moi cette baguette. » La baguette était suspendue dans l'air. Le péril était menaçant. Vite ! Regarde derrière toi, tante. La vieille dame fit brusquement volte-face et ramena ses jupes contre elle en un geste de protection. Le gamin s'enfuit sur le champ, escalada la haute clôture en planche et disparut de l'autre côté. La tante Polly resta figée un instant, surprise, puis elle se mit à rire doucement. Ma parole, quel garnement! Est-ce que j'apprendrai un jour? M'a-t-il pas joué suffisamment de tours de ce genre pour que j'en aie pas le chercher une fois de plus? Il n'y a pas de plus grand fou qu'une vieille folle.
C'était donc le début des aventures de Tom Sawyer, lu par le comédien Philippe Dussault. La semaine prochaine, c'est vous qui me direz quel est le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous. Il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons toutes vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres, nous partons visiter la bibliothèque de Jean-Jacques Debout. Il a une anecdote à raconter par seconde.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. Nous partons visiter la bibliothèque de Jean-Jacques Debout. Il sort un double CD intitulé « Il chante Jean-Jacques Debout », c'est chez Marianne Mélodie. Bonjour Jean-Jacques Debout.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. On est dans le quartier de Pigalle. Et alors, on est rentré dans votre salle à manger, salon. Et alors, c'est
un salon.
C'est un musée. C'est un musée,
non,
surtout.
Bon, non.
Bah, y a des gravures partout, des vieilles photos dédicacées, des objets, des figurines incroyables. Là, il y a Fernandel. Là, il y a un soulier. Un
oui.
Grand soulier, ça m'a fait penser, évidemment. C'est aussi chez Chantal Goya, bien sûr.
Bien sûr.
Ça m'a fait penser alors, au soulier volant.
Ça, c'est en fait une boîte que j'avais trouvée à Bruxelles. Et je pense que c'est une boîte à cigares qui a la forme d'un soulier.
Et justement, puisqu'on en parle, il y a un piano, évidemment.
Ben oui, qui a part...
piano à queue.
Qui a appartenu à Debussy.
Ah oui, quand même.
Oui, c'est ma grand-mère, la mère de ma maman, qui l'avait racheté à la maison Pleyel, parce que Pleyel, à l'époque, avait fait un piano exprès pour Debussy, plus grand. Et celui-là s'est trouvé à vendre. Et comme ma mère adorait la musique et ma grand-mère ne savait pas quoi faire pour lui faire plaisir, elle lui avait acheté ce piano d'occasion, évidemment, il était d'occasion, mais qui est magnifique. Et il a son, le son d'origine des fameux Pleyel, car il y a à peu près 6 ans, Pleyel a vendu tout le fonds de commerce qui était à Saint-Denis. Tout a été vendu, bradé, et on ne trouve même plus de pièces pour les réparer.
Ah oui, ce son-là n'existe plus, sauf sur ces pianos. On peut écouter, voir ce que ça donne.
Oui. On dirait une mandoline.
Debout pour jouer en plus.
Ah oui, parce que c'est France Gall qui m'avait dit, comme je chante, il jouait du piano debout.
Voilà.
Et que j'aimais beaucoup France Gall.
Mon cher Jean-Jacques.
Oui. Voilà. Quand je la voyais, je la rencontrais des fois chez Castel, vous savez, la fameuse boîte où tout le monde se rencontrait à partir de 2h du matin. Alors je lui disais, tu es ma meilleure attachée de presse. J'avais jamais eu une attachée de presse aussi géniale que France Gall, que quand elle chantait, il jouait du piano debout. Que les gens pensaient qu'elle chantait.
Il y avait une virgule, quoi.
Oui. Ouais.
Et en lieu et place des partitions, alors il y a un 33 tours de Chantal Goya. C'est justement
c'est le
soulier qui vole.
Qu'elle joue en ce moment, avec succès.
Il y a 2 photos extraordinaires, là aussi.
Oui. Il y a une photo de Brigitte Bardot.
Dédicacée.
Oui. C'est quand elle était à la fin de ses études à l'Opéra de Paris, puisqu'elle avait été Ptira à l'Opéra de Paris. Ça, c'est l'époque où Roger Vadim la rencontre.
D'accord, oui.
Et qui décide de l'épouser, et qu'il a derrière la tête, évidemment, de faire le fameux film « Et Dieu créa la femme ». Ça, c'est une photo de George Gershwin.
D'accord.
Avec son fils. Son fils qui est là, qui s'appelle Alan Gershwin, qui a épousé mon ami d'enfance. Et un jour, à New York, ils m'ont invité à dîner et il m'a dédicacé cette photo où il est, comme dans un médaillon, à côté de George Gershwin, à côté de son père.
Mmh. Incroyable.
Oui, c'est incroyable. Mais j'ai eu une vie comme ça, faite de rencontres, oui, qui a été complètement dingue.
Bon, et puis vous avez rencontré des livres aussi.
J'ai rencontré des livres, j'adore les livres.
Là, il y en a beaucoup aussi. Et il y a notamment le dernier livre de Jérôme Garcin, Le dernier hiver du Cid, qui parle de Gérard Philippe.
Oui, que j'ai rencontré grâce à mon professeur d'art dramatique. À l'époque, j'allais au cours Simon, j'avais 15 ans. Et on avait comme professeur une femme qui jouait au TNP Jean Villard, et qui était amie de Gérard Philippe, et qui s'appelait Laurence Constant, qui a joué dans le Cid, justement, avec lui. Elle a joué dans Lorenzaccio, elle a joué avec lui dans tous les grands rôles qu'il a joué au TNP. Et un jour, je me promenais devant les deux magots. J'avais rendez-vous avec Jean-Paul Goud, qui est mon copain d'enfance. Et tout d'un coup, je vois Laurence Constant, donc mon professeur d'art dramatique. J'avais 15 ans. Et elle était assise à côté de Gérard Philippe, que j'avais été voir jouer au TNP plusieurs fois. Mais je ne le connaissais pas. Alors là, elle m'a fait un signe de la main, je me suis approché, lui, il buvait un café, je le revois, il avait un blouson veste un peu en nain, il rentrait d'avoir tourné ce film « La fièvre monte à El Pao », où il avait été malade pendant le film. Et il m'a serré la main, il a été très gentil, et en souriant, il a dit à Laurence Constant, il a dit « J'espère que c'est un bon élève ». Alors elle a dit « Oh, pff. Elle a dit, il est complètement fou. Alors il a dit, moi je n'aime que les artistes fous, il a dit. Voilà ce que j'ai comme souvenir de Gérard Philippe.
On va parler de vos livres. Et il y a notamment, si on reste chez le même éditeur, chez Gallimard, il y a La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson.
Alors c'est formidable.
Vous l'avez ici pour Sylvain Tesson ou pour ce livre-là en particulier? C'est le récit de voyage où il part au Tibet observer des panthères des neiges.
Alors, ça m'intéresse parce que j'adore les animaux, d'une part. J'adore les grands espaces. Et puis, j'adore Sylvain Tesson. J'aime sa façon d'écrire, j'aime sa façon de parler, j'aime sa façon qu'il a de voir les situations. Je trouve qu'il écrit magnifiquement bien. Du reste, J'ai pas honte de... J'ai eu la chance d'habiter rue du Bac, à côté de Romain Gary, que j'ai connu. Et forcément, j'ai lu les romans de Romain Gary. Je ne dis pas que c'est du Romain Gary, mais entre Joseph Kessel et Romain Gary, je trouve que Sylvain Tesson a sa place.
Ah ouais, c'est une bonne analyse.
Lui, je le mets au milieu de deux.
Entre Kessel et Gary.
Ouais,
c'est une belle place.
Entre Kessel et Gary, je le mets. Et je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de...
C'est sa liberté qui vous plaît, c'est...
J'aime sa liberté, j'aime sa façon qu'il a d'expliquer et de voir les choses. Et puis alors il a une grande qualité, c'est qu'on s'ennuie jamais. Parce que les livres dans lesquels on s'emmerde, ça... Alors tout le monde s'emmerde pas dans les mêmes livres, forcément.
Sinon,
tout le monde,
point de vue,
tout le monde lirait le même livre.
Bien sûr.
Et non, c'est un très grand écrivain. Pour moi, mais il était déjà un grand écrivain à son premier livre.
Et alors là, il y a un livre très joli, Correspondance, Max Jacob.
Oui. Que je n'ai pas pu connaître, malheureusement, puisqu'il
Paris,
est mort.
Vieille édition.
Dans un camp en se rendant dans un camp de concentration.
Pourquoi vous avez ce livre-là ?
Parce que j'aime beaucoup les poèmes de Max Jacob. Et j'aimais beaucoup, et c'est pas que j'aimais, j'aime toujours, qui est un poète formidable, et qui n'a pas été que poète, qui était aussi peintre, il faisait des gouaches magnifiques, et il était le grand ami de Cocteau.
Oui, il y a des œuvres de Cocteau aussi au mur.
Cocteau avait essayé de lui...
Évidemment, vous avez connu Cocteau.
Oui, très bien, puisque j'allais lui faire ses cours.
C'est-à-dire ?
Eh bien, quand j'étais au petit conservatoire de Mireille... Cocteau habitait en dessous de Mireille, au Palais Royal. Et alors, il téléphonait à Mireille, et puis quand il faisait mauvais, il n'avait pas envie de sortir dehors, et il commençait déjà à être un petit peu âgé, là. Et puis il avait toujours peur de se casser le col du fémur ou de se casser une jambe. Parce qu'il avait glissé une fois où il avait été alité. Disons que quand le soir tombait, il n'aimait pas trop l'hiver, je parle. Alors il téléphonait à Mireille, qui était juste au-dessus de lui. Il lui disait « Oh, ces gens, si vous aviez un élève qui pourrait aller chez Corcelet. » Corcelet, c'était un peu le Hédiard du Palais Royal. « Il y a un paquet qui m'attend. J'ai appelé M. Corcelet, qui m'a préparé tout ce que je dois manger pour ce soir. Il suffit de prendre le paquet et de me le ramener chez moi. » Et alors, un jour, Mireille me dit « Jean-Jacques Debout, vous voulez pas aller... je vais vous donner l'adresse de chez Corcelet pour chercher le dîner de M. Cocteau qui habite juste en dessous. » Alors, il avait ce qu'on appelle un entresol. Les entresols, c'était des petits appartements qui étaient faits, en fait, pour les domestiques de l'époque qui s'occupaient du grand appartement qui était au-dessus. Le grand appartement qui était au-dessus, c'était Mireille et Emmanuel Berle, qui était le fondateur du journal Combat.
D'accord.
Qui passait sa vie dans son lit.
Et donc, vous arriviez avec le dîner de M. Cocteau ?
Alors, je suis allé chez Corcelet, qui était à peu près vers la place des Victoires. Et puis, je leur ai dit, je viens chercher un paquet pour Jean Cocteau, de la part de Mireille, du petit conservatoire. « Ah, mais oui, il est là, prenez-le. » Et puis, je suis allé le voir. Et puis j'ai sonné à sa porte, il m'a ouvert, il était en robe de chambre, dans une robe de chambre vieux rouge un peu.
Comme on l'imagine.
Oui, et puis il m'a dit « Oh, c'est trop gentil, entrez, faites pas attention, il y a du fouillis partout. » Puis alors vous voyez par terre, il y avait des petits morceaux de papier partout, et puis il avait un séchoir à la main. Alors, je me disais, c'est bizarre, Cocteau avec un séchoir à la main. Il me disait, vous voyez, c'est une roulotte de Romain Michel que j'habite. J'ai honte de vous accueillir là, mais enfin, écoutez, il me dit, vous savez ce que je fais ? Alors, je lui dis non. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait un séchoir à la main. Il me dit, je sèche des dessins que j'ai faits pour des amis. Avec le séchoir, ça les sèche beaucoup plus vite parce que je les ai faits à langue de Chine. Et vous avez sonné au même moment et tout. Et il était formidable, Cocteau. Et alors, ce jour-là, il me dit, vous savez, je ne sors plus beaucoup parce que Et puis j'ai tendance à m'endormir. Et alors là, c'est pour ça que dans les courses que j'ai commandées, il avait commandé de la chicorée. Mmh. Moi, je trouvais ça pas possible à boire, de la chicorée. Il voulait me donner un verre de chicorée où il mettait un petit peu de sucre en poudre dans un verre avec de l'eau tiède qui faisait réchauffer dans une casserole. Il avait une toute petite cuisine qui était dans un placard qui tirait comme ça, puis il refermait le placard. Mais c'était invraisemblable. Parce que moi qui avais vu ces films, je pensais que Cocteau, c'était quelqu'un qui avait du personnel, avec des torchères, avec des soldats qui tenaient. Et je pensais pas du tout que c'était quelqu'un qui vivait comme ça. Je lui ai dit, du reste. Et alors, il me dit, vous savez, je ne sors plus beaucoup. Alors, ça vous ennuierait pas demain de retourner chez Corcelet, vers 6-7 heures, comme ça? Comme ça, ça m'éviterait de déranger mon ami Mireille qui est au-dessus. Et le lendemain, j'y suis allé. Et dans l'après-midi, à l'époque, le journal que tout le monde lisait, c'était France Soir. Et il était en première page de France Soir, en train de féliciter un clown au Cirque d'Hiver, qui était en fait le dernier des Fratellini, ces fameux trois clowns, les frères Fratellini, qui ont régné sur le cirque et qui avaient le cirque Medrano ici, dans le 9e, qui avait ce cirque où m'emmenait ma grand-mère souvent. Et je vois Cocteau qui congratulait le dernier clown des Fratellini, qui était le père de Annie Fratellini, qui a créé l'école du cirque, avec qui j'ai fait du cabaret, avec qui j'ai chanté. J'ai même fait une tournée avec Jacques Brel, avec elle, dans le Midi de la France. Alors, je lui dis, mais vous êtes en première page de France Soir. Je lui avais acheté le journal en me disant, il ne l'a peut-être pas vu. Et il dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais comme ça de... Mais je lui dis, vous m'aviez dit hier que vous ne vouliez plus sortir, qu'il faisait trop mauvais, que vous aviez... Il me dit, oui, mais mon amie Francine Westveller m'a envoyé son chauffeur. Et elle m'a dit, ce sont les adieux de ce pauvre Fratellini qui voudrait que vous veniez le voir. Et là, je lui dis, mais c'était comment ce spectacle? Il me dit, écoutez, je ne devrais pas le dire, mais c'était tellement mauvais qu'à la fin, j'ai regretté de ne pas y avoir amené les enfants.
C'est une vraie phrase de Cocteau, ça.
C'est formidable.
Merci beaucoup, Jean-Jacques Debout. On pourrait faire 3-4 heures d'émission, je sais, mais on va refermer le roman qu'est votre vie. Merci beaucoup, Jean-Jacques Debout, de nous avoir accueillis chez vous.
Eh ben, je vous remercie.
Europe 1.
De retour en studio, merci à Fabien Duchesne pour la prise de son et je rappelle le titre du dernier disque de Jean-Jacques Debout. Il chante Jean-Jacques Debout, tous les artistes, les Johnny, les Montand, les Sheila qui chantent les chansons écrites par Jean-Jacques Debout. Restez là, les libraires de La Voix est libre arrivent avec deux bonnes idées de lecture. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est libre, il est l'heure de flâner dans les rayons des librairies. Le libraire est venu, il a dit « Je peux vous aider ?» Et on a dit oui cette fois, parce qu'on a reconnu Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure et Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine. Les deux sont à Paris. Salut les libraires.
Salut. Bonjour. Nicolas.
Vous venez voir les clients, vous, comme ça? Vous venez proposer votre aide ou vous attendez qu'on vienne vous chercher, Christophe?
Oh, je vais plutôt
à
la rencontre.
Ouais,
ouais, ouais. Bon, les clients qu'on a, on les connaît bien. Et généralement, on sent à la manière qu'ils ont d'entrer dans la librairie s'ils sont à la recherche de conseils ou s'ils ont déjà une idée derrière la tête.
Stan?
Oui, pareil. Ouais. L'idée, c'est pas d'embêter le monde, effectivement, mais de dire bah, on est là et si vous avez besoin, allez-y, on a plein de bonnes idées.
Moi, je dis je regarde d'habitude. Laissez-moi tranquille. On commence par vous, Christophe, avec un roman plus ou moins fantastique.
Vraiment fantastique. Oui, ouais, un formidable premier roman d'un auteur qui s'appelle Joseph Denise. Et le titre, c'est « Quand on parle du diable », ça paraît chez Julliard. Un roman fantastique et puis un roman qui rend hommage aussi à toute la littérature feuilletoniste et la littérature populaire de qualité. Dans ce premier roman, on est... Alors, c'est un roman assez copieux, hein, plus de 500 pages. Mmh. Mais Joseph Denys nous happe littéralement. On est à Paris en 1917, la guerre s'enlise et on va suivre les pas d'un jeune homme qui s'appelle Aimé Grandin. Au moment où le roman démarre, on le trouve à la morgue, quai de la Râpée, et il vient reconnaître le corps de son oncle, un peintre fantasque et un faussaire de génie, Géo Grandin. Alors apparemment, on lui dit qu'il est mort d'une crise cardiaque, mais les causes de la mort semblent plutôt surnaturelles. On est embarqué dans cette histoire qui va mêler des personnages fictifs avec des figures existantes. Il y a le fameux occultiste anglais Aleister Crowley, il y a Modigliani, il y a Picasso, Max Jacob, Georges Méliès.
Toutes les vedettes de l'époque.
Voilà. Et il y a aussi des mages et des sorciers, des forces occultes qui vont se livrer un combat acharné pour mettre la main sur un tableau terrifiant qui a le pouvoir de pétrifier tous ceux qui le regardent.
Comme la Gorgone Méduse.
Exactement. D'accord. Voilà. Et
ah oui, c'est vraiment fantastique.
C'est vraiment fantastique. Et puis, ça fait penser à des auteurs comme Jean Rey, les histoires de Fantômas. Ouais. On est vraiment dans cette littérature-là, avec une vraie langue, un vrai travail sur la gouaille et l'argot de l'époque. C'est vraiment avec un final époustouflant. Au bout de ces 530 pages, on en redemande.
Quand on parle du diable de Joseph Denys, eh ben oui, ça a l'air bien, ça me donne envie. Stanislas Rigaud, là, c'est un livre que j'ai déjà lu. C'est McEwan, Yann McEwan.
Machine comme moi, aux éditions Gallimard, qui est pour moi effectivement le grand roman de ce début d'année. McEwan, on le connaît, grand auteur anglais. Mais ce que j'aime particulièrement chez McEwan, c'est que vous ne savez jamais ce qu'il va faire.
Oui, en fait, il change de genre sans arrêt.
Voilà, il change de genre sans arrêt. C'est facile, compliqué, drôle, triste. Enfin bon, et on est à chaque fois surpris, si ce n'est que la qualité est très souvent au rendez-vous. Et je pense que ce nouveau roman est peut-être l'un de ses tout meilleurs. Ouais. L'histoire, c'est simple. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Charlie, qui traîne un peu la papate. Il vient de se faire virer de son boulot, on ne sait pas trop pourquoi. Et il survit en boursicotant sur Internet. Et l'ami Charlie vient de s'offrir un Adam, un androïde toute dernière génération. 25 exemplaires mis en vente sur le marché. Il a pété l'héritage de sa grand-mère pour s'offrir ce robot. C'est un fou de technologie. Alors, il est un petit peu déçu parce qu'en fait, il aurait bien aimé avoir une Ève, mais il est arrivé trop tard. Donc, il a récupéré un Adam, mais bon, c'est déjà très bien. Et alors, il rentre chez lui. L'Adam, comme toute bonne machine, il faut le charger, en fait. Donc, on branche et on attend. Et alors, il réfléchit en attendant que l'Adam s'anime et il réfléchit sur la suite des opérations. La suite des opérations, c'est qu'il aimerait bien l'éduquer, entre guillemets, avec sa douce et tendre voisine dont il est fou amoureux et qui pense faire un bon couple. Et ce robot ferait un bébé, en fait, tout à fait de circonstance. Mmh. Et pendant qu'il attend donc la charge, il regarde aussi les infos. Et l'actualité est quand même pas très, très rieuse puisque l'Angleterre envoie des troupes pour aller récupérer les îles Malouines. Or, donc, notre ami boursicote sur Internet, mais on est en 1982. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Et alors qu'on fronce le sourcil, le Adam se réveille et l'une des premières choses qu'il dit à son maître, entre guillemets, c'est « ne faites pas confiance à votre voisine, elle vous ment ». Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait ? Et voilà, c'est McEwan qui vous fait un roman à la fois magistral sur la question de l'intelligence artificielle.
Et la question de l'homme, en fait.
La question de l'homme, en fait, voilà, c'est ça, c'est bien au-delà. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse peu. Et le roman est absolument prodigieux. L'intelligence, en fait.
La science-fiction.
Et c'est vrai que c'est foudroyant. Il mélange ça avec un drame, une espèce de vaudeville qui est drôle, féroce. C'est brillamment écrit. Vous avez les clés de la fin, vraiment à la fin, en fait. Et une fois terminé, c'est vraiment le type d'ouvrage que vous avez envie de recommencer, parce que vous avez l'impression de n'avoir saisi qu'une écume de la profondeur du livre. C'est un presque chef-d'œuvre, à mon avis.
La fin est magnifique, effectivement. Il faut lire tout ce Yann McEwan, ce nouveau Yann McEwan, superbe, une machine comme moi chez Gallimard. Et Joseph Denys, quand on parle du diable chez Julliard, ça c'est le choix de Christophe Daniel. On retrouve ses livres dans vos librairies respectives, la 25e heure et la librairie Lamartine. Les deux sont à Paris. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Merci.
Direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande. À tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous présentez non pas un,
mais plusieurs livres. Mais alors lesquels ?
Alors, ils ont surtout une particularité, Nicolas. Ils sont grands, très grands par la taille. Et quand je parle de grand format, alors je ne plaisante vraiment pas. 35 cm de largeur pour 50 cm de hauteur.
Ouais, ça va.
Alors, on pourrait croire que je parle des mensurations d'une table basse. Ce n'est pas le cas. Ce sont des livres pour enfants, la plupart du temps pour les 2-5 ans, pas plus. Et parmi ces géants, je vous ai sélectionné deux pépites. Le premier est édité chez Marcel et Joachim. Son titre, Animaux autour du monde. C'est un bestiaire très simple, un animal par page. Buffle, lama, babouin, kangourou et autres pélicans sublimés par la designeuse Ingela Arrhenius.
Et le deuxième, c'est un grand classique de la littérature jeunesse,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est l'histoire de Charlotte, une petite fille qui a un ami pas vraiment comme les autres. C'est un chien au pelage bleu.
Ah, le chien bleu ?
Exactement. Un chien donc au pelage bleu et aux yeux verts, brillants comme des pierres précieuses. Il vient la voir tous les soirs. Charlotte aimerait vraiment le garder chez elle. Mais sa maman s'y oppose. Pour ne pas le quitter, Charlotte va décider de se perdre dans la forêt. Elle va devoir défendre bec et ongles son nouvel ami face à de nombreux dangers, je ne vous en dis pas plus. C'est un album qui date de 1989 et qui n'a pas pris une seule ride. Il y a presque tous les sentiments dans Chien Bleu. La joie, la tristesse, la peur, le courage, l'amitié, l'amour. Et si vous n'avez pas encore découvert cette histoire, achetez-la vraiment en très très grand format. Les gouaches de l'auteur égyptienne Nadja dans ce format vous sautent au visage, c'est magnifique.
Bon, cela dit, il faut une grande, grande bibliothèque pour ranger ces livres-là, non ?
Eh, pas vraiment. Première règle, on ne couche pas d'aussi beaux livres, on leur trouve une vraie place. Alors, soit effectivement, vous avez une immense bibliothèque, suffisamment grande pour loger ces immenses livres, soit je vous donne un petit conseil, trouvez-leur une place de choix.
Eh oui, c'est joli.
Dans la chambre de vos enfants, ils adorent en plus se les approprier comme des objets. Vraiment, c'est peut-être le conseil le plus utile.
Et on rappelle les titres de ces deux maxi-livres, c'est comme ça qu'on dit.
Ouais.
Animaux du monde d'Ingela Arrhenius, c'est aux éditions Marcel et Joachim. Vous dites Joachim, vous ?
Joachim, Joachim. Oh,
d'accord. Moi, je dis Joachim. Et Chien bleu de Nadja aux éditions L'École des loisirs.
À la semaine prochaine, Nicolas.
Merci, Victor. À la semaine prochaine.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.